RFJ Info.
Le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour, des bars et restaurants toujours à l'arrêt et pendant ce temps des fûts de bière qui périment dans les caves de nos brasseurs locaux, certains ont même commencé à en jeter. Moutier, pilier et capitale du Jura bernois, c'est ce que défend ce matin le conseil du Jura bernois à un mois du nouveau vote communaliste. Les playoffs, c'est déjà fini pour le volleyball Franche-Montagne, battu 3-0 hier soir à Chafouz en quart de finale, battu 3-0 dans la série également. Les Ténions sont à leur place, nous dira Olivier Lardier. Des prévisions encore incertaines pour le week-end qui pourraient rester sec contrairement aux premières prévisions, mais un temps qui sera dès demain plus nuageux que cette semaine et des températures en baisse. Des litres de bière jetées dans les égouts, gaspillage sacrilège même pour les amateurs de houblon, pourtant bien réel en Allemagne où des brasseurs ont lancé en début de semaine un appel à l'aide. Les nombreux fûts inutilisés depuis la fermeture des restaurants commencent à périmer. Info douloureuse pour les jurassiens, c'est aussi le cas pour les brasseurs de la région, avoue le patron de la brasserie des Franches-Montagnes, Jérôme Rebeté.
Évidemment qu'on a aussi ce genre de problème, notamment les fûts un peu plus de, qui ont des rotations plus lentes, comme les bières brunes et compagnie. Ça en a déjà dû en virer quelques-uns, même si on a des dates qui sont à peu près de un an. Et comme on avait une production en cours quand ça a été fermé entre octobre et novembre, bah, tout ça, il a quand même fallu conditionner. Et là, on se retrouve autour de piles de fûts assez conséquentes. On a environ 1200-1400 fûts en stock. Et on sait que 400 à 500 sont menacés d'extinction.
Vous avez dû un peu adapter votre production, votre type de production à la situation sanitaire.
Il est évident que la machine à fût est la langue des brasseurs. Ça fait longtemps qu'elle les a plus vues. On fait plutôt des bouteilles pour les magasins maintenant. Ça, c'est clair. Et je pense qu'il faudra relancer la production quand on saura sur quel pied danser concernant les ouvertures pour avoir de nouveau du stock frais à proposer à nos clients.
Jérôme Rebeté avec Nina Beret. Ces pertes représenteraient 8 à 10 000 litres de bière, jusqu'à 50 000 francs de pertes financières. Du côté de la brasserie Blanche-Pierre à Delémont, le problème ne se pose pas. Les brasseurs ont déjà prévu de valoriser les fûts qui arriveront à date limite. Les restaurateurs, eux, continuent de ronger leurs freins après les annonces du Conseil fédéral hier après-midi. Pas de réouverture avant le 22 mars au mieux, si le point de situation intermédiaire montre un contexte sanitaire favorable. La profession manque de perspectives, déplorait la semaine dernière le ministre jurassien de la Santé et de l'Économie, Jacques Gerber. La situation n'a pas beaucoup changé hier. Jacques Gerber attend quand même un peu plus de certitude.
Ce que nous demandons, ce n'est pas forcément une date précise, parce que nous savons que c'est lié à l'évolution de la situation sanitaire. Par contre, si réouverture il doit y avoir, alors celle-là doit être totale, avec peut-être des précisions quant aux normes sanitaires à mettre en place. Est-ce que celle d'avant la fermeture était suffisante ou non? Nous attendons des réponses sur ces aspects-là.
Vous avez été consulté, les cantons ont été consultés. On a entendu parfois le mot consultation, alibi. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu à Berne?
Je crois qu'il faut faire toujours attention lorsqu'on utilise ce genre de termes, parce que toute consultation amène certaines frustrations au canton, parce que certains sujets sont repris, certaines idées sont reprises, d'autres pas. Ici, je crois que le Conseil fédéral est tout de même allé dans la direction un petit peu des cantons, notamment en précisant que peut-être une ouverture pouvait avoir lieu le 22, en tout cas que le Conseil fédéral était prêt à réanalyser l'ensemble du dispositif pour un assouplissement à partir du 12 mars. Donc pour nous, c'est déjà un pas. Le Conseil fédéral a également pris en considération cet âge des 18 ans pour les jeunes qui n'avaient pas beaucoup de signification. 20 ans semble plus approprié. Donc on ne peut pas dire que c'est alibi, mais bien sûr, on peut rester sur notre faim, notamment encore une fois par rapport aux perspectives pour le sport à l'intérieur et la restauration.
Jacques Gerber qui répondait à Vincent Jacquat du côté des restaurateurs. Il faut s'armer de patience, résume le président de Gastrojura. Pour Maurice Pope, le pire scénario serait celui d'une réouverture courte suivie d'une nouvelle fermeture. Le conseil du Jura bernois veut défendre l'intégrité de son territoire. Il l'a répété ce matin en vue du vote du 28 mars sur l'appartenance cantonale de Moutier. La majorité des membres du CJB estime que la cité prévotoise est un pilier du Jura bernois, même sa capitale, et qu'elle a toute sa place dans le canton de Berne, selon la présidente du CJB, Virginie Ayer.
La position du Conseil du Jura bernois reste la même. Il souhaite que la ville de Moutiers reste dans le canton de Berne.
La minorité du CJB, elle parle d'une ingérence dans une affaire communale. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Le Conseil du Jura bernois est l'organe politique institutionnel qui doit représenter la voix de la minorité francophone dans le canton de Berne. Le CJB est parfaitement légitimé à prendre position sur tout type de votation, qu'elle soit communale, cantonale ou fédérale. S'il choisit de ne pas prendre position régulièrement sur des votations communales, c'est parce que ces objets-là ne concernent pas tout le Jura bernois, au contraire de la votation de Moutiers qui concerne directement toute la région.
Une position qui a été défendue par 19 voix contre 4 et une abstention. Parmi les membres qui ne la soutiennent pas, Pierre Mercera, président du groupe autonomiste au CJB. Pour lui, l'autonomie communale passe par une non-ingérence de l'institution. Reste que le CJB est quand même le représentant du Jura bernois qui pourrait perdre une partie de son territoire. N'est-ce pas normal du coup qu'il communique sur cette affaire, Pierre Mercera ?
Il n'est pas obligé de le faire, mais il l'a fait. C'est son droit, c'est clair. Ça a été décidé à la majorité. Nous avons défendu notre position, nous continuons à la défendre. Mais le Conseil du Jura bernois a bien sûr le droit de s'exprimer. Maintenant, sur le plan juridique, je ne veux pas aller jusque-là, vous savez tous très bien que les directives de la tripartite ont été resserrées au niveau de la communication puisqu'elles avaient créé problème avant. Alors, de surcroît, pourquoi encore nous s'y mêler ? Le canton de Berne s'est engagé à ne plus intervenir. Le Conseil du Jura bernois est un peu un bras du canton, quand même, entre guillemets. Hein. Il intervient, c'est sa responsabilité.
Un dossier signé Olivier Zano. Le Conseil du Jura bernois répète encore que le vote du 28 mars à Moutiers devra marquer la fin de la question jurassienne. Retour aux urnes dans 10 jours pour le peuple suisse. Vous êtes appelé à vous prononcer sur 3 objets fédéraux le dimanche 7 mars, dont l'initiative populaire portée par le comité d'Egerkingen, oui à l'interdiction de se dissimuler le visage qui a déjà fait beaucoup de bruit. Autre sujet, l'accord de partenariat économique entre la Suisse et l'Indonésie et la loi sur l'identité électronique. Nancy Chapuis a fait pour vous le tour des positions des partis jurassiens.
Et c'est un clivage gauche-droite qui se dessine sur ces 3 scrutins. L'UDC, le PLR et le PDC préconisent de voter 3 fois oui. La loi sur le passeport numérique tend vers plus de sécurité et de simplicité. L'accord de libre-échange permet, selon ces 3 parties, de mieux réglementer l'importation d'huile de palme et d'offrir un avantage certain aux entreprises suisses. Quant à l'initiative anti-burqa, les arguments portent sur les valeurs démocratiques et le respect de l'égalité homme-femme. Toutefois, ce n'est que d'une courte majorité que le texte a reçu l'approbation du Parti libéral radical. Et au sein du PDC, de nombreuses voix s'y opposent. Du côté des noms, on retrouve l'EPS, les Verts et le CS Pop Gauche en mouvement. L'initiative populaire pour l'interdiction de se dissimuler le visage ne concerne que quelques dizaines de personnes qui seront dès lors exclues de l'espace public. Pour la loi sur l'EID, les 3 parties relèvent le problème de protection des données puisque ce sont des entreprises privées qui seront mandatées et l'accord avec l'Indonésie n'est pas satisfaisant d'un point de vue durabilité quant à l'exploitation de l'huile de palme. Enfin, le parti évangélique jurassien propose de glisser 2 oui et 1 non concernant les relations avec l'Indonésie. Quant au mouvement vert libéral, il reprend les consignes de vote du parti suisse. Oui à l'accord de libre-échange, non au passeport numérique et sans opinion sur la loi anti-burqa.
Et pas de mot d'ordre pour le moment du PCSI qui a lancé une consultation en ligne. Les 3 objets font actuellement débat au sein même du Parti chrétien social indépendant. Le vaccin Pfizer est efficace à 94% contre les cas symptomatiques de Covid-19. C'est le résultat d'une étude de très grande ampleur réalisée en Israël sur plus d'un million de personnes. Elle confirme les données des essais cliniques et le rôle crucial de la vaccination pour mettre un terme à la pandémie. La société Moderna, elle, a développé une version modifiée de son vaccin. Elle pourrait être utilisé spécifiquement contre le variant sud-africain. Ce vaccin est prêt à être testé sur des humains dans le cadre d'essais cliniques. 5 nouvelles entreprises en Suisse s'engagent pour la protection du climat. Carpostal, PostFinance, la SSR, l'aéroport de Zurich et Ruag qui rejoignent l'initiative Exemplarité Énergie et Climat. L'initiative comptait déjà 10 adhérents dont la Poste et les CFF. Exemplarité Énergie et Climat, c'est l'une des 12 mesures de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. C'est une femme qui succédera à Mario Gattiker en 2022 à la tête du secrétariat d'État aux migrations. Karine Keller-Souter et le Conseil fédéral ont désigné Christine Schraner-Burgener, diplomate de 57 ans. Elle est actuellement envoyée spéciale des Nations Unies pour le Myanmar en Birmanie. Elle va débarquer dans un office fédéral régulièrement sous pression politique, tantôt appelée à durcir l'accueil des demandeurs d'asile, tantôt à se montrer plus humaniste. C'est justement pour ça que Christine Schraner-Burgener est la personne idéale, selon la conseillère fédérale Karine Keller-Souter. Terre.
C'est un poste quand même, secrétaire d'État au SEM, où il faut avoir différentes qualifications. À part le fait d'être vraiment compétent en la matière, c'est aussi très important d'avoir une compétence sociale très marquée. Le SEM, je dirais, c'est un des offices fédéraux les plus complexes. Il faut avoir le don de pouvoir dialoguer avec des interlocuteurs différents, les comprendre, les écouter, trouver des solutions. Trouver des majorités en politique de migration aussi à l'intérieur de la Suisse, c'est vraiment un défi aussi. Hein.
Et la nouvelle secrétaire d'État aux migrations, Christine Schraner-Burgener, pourra se prévaloir de sa longue expérience de diplomate un peu partout dans le monde.
Je peux m'appuyer sur de nombreuses années d'expérience. En tant qu'expert en droit international, j'utilise une rights-based approach, une approche fondée sur les droits. Pour mettre en œuvre avec succès la politique du Conseil fédéral, je pense que la mise en réseau est une condition préalable importante. J'aime le dialogue avec d'autres services fédéraux, les parlements, les cantons, les communes, les villes, la société civile, les partenaires internationaux et les médias.
Karine Keller-Souter féminise encore un peu plus son staff à la tête du département fédéral de justice et police. 60% de ses principaux collaborateurs sont des femmes. Elle a toutefois dû remettre les clés d'un autre office, celui de la justice, à un homme, le Turgovien Michael Scholl.
Vous écoutez RFJ, les 12h26.
Sport.
Il n'y a pas eu d'exploit pour le volleyball Franche-Montagne. Les Tenyons ont été sortis des playoffs de Liga hier soir par Kanti Chafouz. L'aventure s'est terminée sur une défaite sèche 3-0 dans le troisième acte des quarts de finale qui s'est joué en terre alémanique. 3-0, c'est aussi le score sur l'ensemble de la série. Une élimination finalement assez logique, reconnaît l'entraîneur du VFM Olivier Lardier.
Il y a de la déception parce qu'on veut toujours mieux faire et on espère toujours mieux faire. Il n'y a pas de regret. Parce que quand on regarde la physionomie de toutes les rencontres face à cette équipe-là, excepté le match de samedi dernier à domicile dans la série, où on a réussi à résister par rapport à l'équipe de Kanti Chafouz, tous les autres matchs se sont scellés à peu près sur le même niveau de score et domination de l'équipe de Chafouz.
Il n'y a pas quand même le regret de ne pas avoir pu jouer avec votre capitaine, Beli Maignana ?
Là aussi, les regrets, ça serait faire offense aux autres joueuses. Maintenant, ça fait partie d'une compétition. Il y a des équipes qui ont eu à subir beaucoup de confinement dû au Covid. Il y a des équipes qui ont eu à subir des blessures. Nous, on en fait partie également. Et que ça se tombe à ce moment-là, c'est certainement préjudiciable. Mais voilà, des regrets, non, il faut combattre avec les armes que l'on a aujourd'hui et continuer de se battre avec ça.
Olivier Lardier et le VFM qui vont continuer à se battre donc dans les séries de classement. Le volleyball Franche-Montagne vise désormais la 5e place finale. Une finale 100% suisse au tournoi WTA de tennis d'Adélaïde, c'est possible parce qu'après Jill Teichmann, Belinda Bencic s'est hissée en demi-finale ce matin. Elle a dominé l'Australienne Storm Sander en deux manches, 6-2, 6-4. La Saint-Galloise se mesurera demain à la jeune américaine Cori Gauff pour sa première demi-finale sur le circuit depuis le Masters 2019 à Shenzhen. 2, c'est assez. 3, c'est trop. C'est ce que se disent les Young Boys à quelques heures de leur match retour des 16e de finale de la Ligue Europa de football. Ils se déplacent ce soir chez les Allemands du Bayer Leverkusen. Jamais IB n'a franchi ses 16e de finale, éliminé deux fois en 2011 et 2015. Vainqueur 4-3 à l'aller jeudi dernier à Berne, IB veut croire en ses chances de vaincre le dicton du jamais 203, son capitaine Fabian Lustenberger.
Ich glaube, die Ausgangslage ist klar für uns. Wir haben das Hinspiel gewonnen. Wir haben eine gute Ausgangslage uns erarbeitet durch den.
Nous avons gagné le match aller. Nous tenions la rencontre et pensions que nous allions remporter cette victoire aisément à la maison, jusqu'à ce qu'il soit très clair que Leverkusen était simplement d'une qualité incroyable. C'est ce qu'ils ont montré en deuxième mi-temps où ils ont marqué trois fois. Mais nous sommes préparés de manière optimale pour ce match retour.
Ja, auch da glaube ich, hat man im Hinspiel gesehen, was für Qualitäten sie haben im puncto Schnelligkeit, im puncto.
En tout cas, j'ai vu durant le match aller qu'ils avaient des qualités en termes de vitesse et au milieu de terrain avec Florian Wirtz ou Kerem Demirbay. Ces deux joueurs sont polyvalents et très forts. Ils vont certainement l'être à nouveau contre nous. Ils sont toujours à la recherche d'une ouverture. C'est à nous de les empêcher de jouer. C'est ce qu'a prédit l'entraîneur. Il faut tirer les leçons du match aller et se concentrer sur notre jeu. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour réaliser cet exploit.
Et schlussendlich uns auf unser Spiel zu konzentrieren und alles daran setzen, dass wir diesen Exploit schaffen.
Des propos traduits par Mathieu Schaffner, Leverkusen Young Boys, le coup d'envoi c'est ce soir à 21h.
Merci Jérémy Pignard. Météo des neiges, car oui, il y a encore un petit peu des pistes quelque part du côté des Bugnonnais-Savanières. On en parle dans quelques secondes.
La météo avec 360 Contessa. La météo planifie votre journée. Nous planifions vos projets de construction et rénovation.
Beau temps et conditions printanières, voilà ce que prévoit Météo News pour la suite de cette journée. Il y a un petit peu de vent sur les crêtes et le mercure va grimper jusqu'à 16 degrés aux Franches-Montagnes et 18 en plaine. Demain, le temps sera assez incertain avec un ciel plus nuageux mais qui pourrait rester globalement sec. Il fera entre 2 et 4 degrés à l'aube, puis au mieux 12 à 1000 mètres et 15 à basse altitude.
La météo avec 360 Compte Entreprise Générale à Delémont. Une approche professionnelle et proche de vous. La météo des neiges avec le domaine skiable des Bugnonnais-Savanières.
Alors c'est le dernier moment, hein. Il y reste une installation sur 8 qui fonctionne du côté des Bugnonnais-Savanières avec des conditions praticables et ce jusqu'à 16h30. Profitez. Sinon, du côté du ski de fond, absolument tout est fermé sauf les irréductibles Bugnonnais-Savanières puisque là-haut, le circuit des 4 bornes nous offre des conditions praticables à Bonne. On nous annonce que le prochain entretien de cette piste de ski de fond aura lieu demain soir. Il y a 10 km dans les deux styles. Donc vous pouvez découvrir tranquillement, je vous le rappelle, ce bulletin d'enneigement sur la page d'accueil du site juratourisme.ch.
C'était la météo des neiges avec le domaine skiable des Bugnonnais-Savanières.